L'affaire Pétain. Pétain, vous le savez bien, a été condamné en 1945. Il y a des gens aujourd'hui qui considèrent que cette condamnation est injuste et qui voudraient obtenir sa réhabilitation. Si on pense à l'affaire Dreyfus, c'est exactement le contraire. Hein. Dans l'affaire Dreyfus, c'était un innocent qu'on avait déclaré coupable. Aujourd'hui, c'est un coupable qu'on veut faire passer pour innocent. Il y a un très gros mouvement qui se développe avec Maître Izorni, qui est un homme du reste respectable, qui a pris l'initiative de ce grand mouvement. Puis il y a surtout quelqu'un qui s'appelle Henri Amouroux, qui travaille bien, qui est un bien ancien élève de Bordeaux, qui a un peu évolué par rapport à ce qu'il était lorsqu'il était mon étudiant, et qui a fait à la radio française toute une série pour expliquer qui était Pétain, et qui écrit un livre en 8 volumes, je crois, il y en a déjà 4 qui sont parus, Les Français sous l'occupation, c'est très très bien fait. Seulement, la grande idée de mon ami Henri Moreau, c'est ceci, on se trompe sur le maréchal Pétain, on a raconté que c'était un vilain bonhomme. En réalité, oui, il l'avale, c'est son mauvais génie. Mais lui, le maréchal Pétain, c'était un très brave homme, qui n'avait jamais fait de politique, et qui, par sensibilité, c'est le mot d'amour, par sensibilité, quand il a vu l'état où était la France en juin 1940, avec le désastre, avec cette espèce de liquidation de la France, a fait don de sa personne à la France, pour tenter d'obtenir d'Hitler, par son prestige personnel, un peu moins de rigueur à l'égard de la France. Voilà le thème. À mon avis, c'est radicalement faux. Je vais essayer de prouver, preuve sur preuve, hein, avec document sur document, que le maréchal Pétain est un homme qui, depuis 1934, au moins, et surtout à partir du Front populaire 1936, est quelqu'un qui avait résolu de modifier profondément la politique intérieure française, quelqu'un qui détestait la République, qui était convaincu loyalement que la République était le malheur de la France, qui détestait tout ce qui pouvait ressembler à du socialisme, et qui s'était dit, il faut absolument changer la politique intérieure française, au besoin même, en passant par un désastre. Dire une chose pareille, ça paraît scandaleux, quoi, le maréchal Pétain qui souhaitait un désastre, mais vous savez, c'est pas la première fois. Dans l'histoire française, il y a eu en 1870 quelque chose d'assez semblable, qui s'appelait aussi un maréchal, c'était le maréchal Bazaine, et qui carrément avait misé sur un désastre national. Bon alors, allons-y. Ce que je vais vous dire est heurtant, scandalisera pas mal de gens, mais j'ai la conviction, hein, la conviction absolue, que quand les passions sont retombées, mettons 50 ans, 100 ans, ce que je viens de vous dire, ce sera l'histoire historique, ce sera admis. Alors pour piger l'affaire, il faut qu'on remonte assez loin, pas au début tout de même, mais en 1875. Pourquoi 75? Parce que c'est en 1875 que la France est devenue une république, officiellement une république. Cette histoire-là a l'air du reste d'un paradoxe. Qui est la chambre, qui est l'assemblée qui a décidé la république? C'est l'assemblée qui avait été élue le 8 février 1871, 71, et cette assemblée était en énorme majorité royaliste. Il y avait 750 députés, il y en avait 600 qui étaient des royalistes. J'entends bien qu'ils ne s'entendaient pas eux-mêmes très bien, il y avait les royalistes légitimistes, les royalistes orléanistes, mais enfin ils étaient des royalistes, quoi. Alors comment se fait-il que ce soit cette chambre royaliste qui décide, en janvier 75, à une voix de majorité, hein, que le régime sera la République? Là, je vais vous expliquer. Tout vient d'un homme extrêmement astucieux, que j'aime pas, mais dont je salue l'intelligence, qui s'appelait Monsieur Thiers. Monsieur Thiers est très connu, vous savez, par la répression de la Commune, mais c'était un homme astucieux, et voici le raisonnement qu'il faisait. Il disait à ses amis de la Chambre, ses amis royalistes, moi aussi, j'ai été royaliste pendant longtemps, puisqu'il avait même été ministre Louis-Philippe. Et je vivais, disait-il, sur l'idée simpliste, que la monarchie est le système le plus confortable, le plus sérieux, pour garantir les choses importantes. Les choses importantes pour lui, c'était la sécurité des fortunes, que les nantis ne soient pas troublés, que les pauvres continuent à rester pauvres et que les riches puissent s'enrichir avec le travail des autres. Alors il avait dit, j'avais cru que c'était le système monarchique, puis je me suis aperçu que ce n'était pas vrai. Parce que dans le système monarchique, en principe, je dis bien en principe, hein, c'est un homme qui dirige tout, la volonté d'un seul. Il a autour de lui des sujets. Mais ces sujets décident brusquement d'être plus des sujets, mais des citoyens. Ils se révoltent. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est que la volonté du roi est brisée. Ça s'est vu en 1789, ça s'est revu en 92, ça s'est revu en 1848, ça vient de se revoir, disait-il, en 70, lorsque les Parisiens ont proclamé la République. Alors j'ai donc été, disait-il, effrayé par l'idée républicaine, et puis j'ai réfléchi à ceci, et il expliquait ça, vous savez, jour par jour, à ses amis de la Chambre. Qu'est-ce que c'est que la République? C'est la démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie? Suffrage universel, volonté nationale, comme on dit. Mais qu'est-ce que c'est pratiquement la volonté nationale? C'est la majorité des citoyens. Il suffit qu'il y ait la moitié pour un, plus un, et ça s'appelle majorité. Alors si cette majorité décide que le régime sera tel, ce régime devra être accepté par tout le monde comme étant le régime de la volonté nationale. Or, disait M. Thiers, est-ce que vous avez remarqué, toutes les fois qu'on a fait appel au suffrage universel, Vous remarquez ce qui s'est passé? Il remontait même assez loin. Je ne sais pas s'il le faisait, mais il aurait dû le faire en tout cas. Il aurait dû penser à 1792, quand pour la première fois il y a eu la République en France et qu'on avait voté les gens. Cette France de 92 était composée à, je ne sais pas moi, 98% de pauvres gens. 750 députés à la Convention. Mais savez-vous combien il y avait de représentants du peuple, enfin de pauvres gens, à cette convention de 750 députés? Il y en avait deux, vous entendez, il y en avait deux. Deux prolétaires. Il y avait un Noël Pointe qui était un ouvrier armurier de Saint-Étienne. Il y avait un quart d'heure de laine de Reims qui s'appelait Armonville. Tout le reste, hein, tous les gens qui composaient la convention, c'était notable. C'était des gens assis, importants, des riches, quoi. En 1848, en avril 48, de nouveau suffrage universel. On fait voter ces gens qui continuent à être en immense majorité des pauvres. Qu'est-ce qu'ils envoient? Ils envoient une chambre formidable, l'Assemblée nationale, qui sera prodigieusement réactionnaire et qui va essayer de détruire la République. Et troisièmement, disait M. Thiers, qu'est-ce qui vient de se passer de nouveau le 8 février 71 pour élire la chambre dont nous faisons partie? C'est la même chose. Cette France, en immense majorité composée de pauvres gens, délègue qui? Délègue des riches, délègue des notables. Parce que d'abord, la paysannerie est à ce moment-là de 85% à peu près des Français. Des quantités de paysans sont analphabètes. Ils votent donc comme on leur dit de voter. Alors dans chaque coin de France, dans chaque district, dans chaque commune, les pauvres gens votent au vote poussés par les notables, c'est-à-dire par le médecin, par le notaire, par le curé, par le châtelain. Si bien que c'est formidable, ils étaient, vous vous rendez compte? Ce sont les pauvres eux-mêmes qui nous dénèguent, nous les possédants, nous les notables, nous les riches, pour décider de la politique. Et nous sommes armés d'une puissance extraordinaire, puisque nous représentons, paraît-il, la volonté nationale. Alors comprenez, camarades, disait, messieurs, vous comprenez à quel point c'est avantageux d'avoir la République. On aura une République conservatrice, et avec elle, toute la puissance de la volonté nationale. Et on va constituer quelque chose qui s'appellera le centre-gauche. En réalité, ce sont tous les grands affairistes de la Chambre, ils sont là. Hein. Tous ceux qui représentent des grosses puissances. Lui, M. Thiers, c'est le PDG des mines d'Anzin. Il y a le représentant des chemins de fer du Nord, c'était Rothschild. Il y a le représentant de la sidérurgie, ce sont des gens de l'Est. Et bien ça, ça va constituer le centre-gauche. Pourquoi gauche? Ben justement, pour faire républicain. Et à ce moment-là, le clivage, ça a duré très longtemps, vous savez. Le clivage entre droite et gauche en France, c'était la religion. Alors on va se décider, s'affirmer comme des anticléricaux, et je reconnais qu'il y avait bien besoin de faire de l'anticléricalisme. Donc, en janvier 1975, à une voix de majorité, ça s'appellera l'amendement Vallon, la République est proclamée en France. Ça va bien au départ. En 1979, il y a quelque chose d'embêtant, c'est qu'on avait pensé qu'à cause de la répression de la Commune, les idées socialistes étaient écrasées. Et voilà qu'en 1979, le marxisme reparaît en France, avec un nommé Jules Guesde. Ça, c'est ennuyeux, il faut trouver un moyen de contrebattre cette influence délétère. Alors, ça va être l'intervention de Jules Ferry. Quand on dit le nom Jules Ferry aux Français d'aujourd'hui, ils pensent école laïque, et c'est vrai. Jules Ferry, en effet, a établi des choses que je trouvais indispensables, à savoir l'enseignement primaire, obligatoire, il faut que tous les enfants aillent à l'école, hein, qui soit gratuit, c'est donc excellent, et qui soit neutre. Pourquoi neutre? Ben, jusqu'alors, on infligeait aux enfants, à tous les enfants, une culture catholique. Alors qu'il y avait l'ensemble, beaucoup de gens qui disaient « Non, on ne veut pas que nos enfants soient élevés dans la religion catholique. » Alors il était indispensable que l'enseignement fût neutre. Bon, tout ça, en apparence, est parfait. Mais il faut comprendre l'arrière-pensée de M. Jules Ferry. En 1850, on avait déjà fait une loi d'enseignement, ça s'appelait la loi Fallou. Cette loi Fallou avait mis pratiquement l'enseignement total de la France sous le contrôle du clergé. Parce qu'à ce moment-là, l'Église était très écoutée, et que même les plus violents athées, comme M. Thiers, disaient « C'est excellent que les curés et l'âme des enfants en leurs mains, parce qu'on va demander aux prêtres d'enseigner avant tout aux petits pauvres le respect des hiérarchies sociales, hein, la résignation. Alors c'est amusant de penser que les pires athées, Victor Hugo disait, ce sont les athées de la nuance catholique, qui sont tout à fait méprisants à l'égard du christianisme. Ils disent, c'est excellent qu'il y ait encore des imbéciles qui y croient, et ça avait marché pendant un certain nombre d'années. Mais ça, c'est 1850. Hein. Entre 1850 et 1879, où nous sommes, au moment de Jules Ferry, les gens ont cessé très largement d'y croire. Hein. Il y a une déchristianisation énorme en France. Alors on ne peut plus compter sur les curés pour se faire obéir. C'est pourquoi il va inventer, Jules Ferry, un nouveau corps d'instituteurs. Et ces instituteurs vont avoir pour mission précise, il y a toutes sortes de circulaires là-dessus, de faire la même chose que les curés en 50, c'est-à-dire votre premier devoir, c'est d'apprendre aux petits pauvres le respect des hiérarchies sociales. On ne dira pas le mot résignation parce qu'il fait un peu clérical, mais l'obéissance aux notables. C'est ça l'histoire Jules Ferry. On pourrait dire que ce Jules Ferry, c'est un fallou laïque. Bon, alors ça marche bien, c'est très bien. Et toutes les élections suivantes sont parfaites. 1899, voilà un ennui, c'est l'affaire Dreyfus, une affaire passionnelle. On voit beaucoup d'étudiants à Paris qui se deviennent très républicains, très à gauche. On voit une partie même de l'opinion ouvrière qui manifeste en juin 99. Pour la première fois en France, on voit une manifestation où ouvriers et intellectuels sont ensemble. On ne reverra plus guère ça avant mai 68. Hein. Très effrayant, ça va très mal. Alors on va constituer une politique de défense, on appellera ça la défense républicaine. C'est un nommé Waldeck Rousseau qui va prendre le pouvoir. Je l'ai pris longtemps pour un radical, mais non, c'est un homme du centre-gauche, Waldeck Rousseau. Il prend le pouvoir, il annonce une défense républicaine qui sera naturellement très anticléricale, et il le fallait, parce que la plupart, 95% des catholiques dans l'affaire Dreyfus avaient été contre Dreyfus, c'est-à-dire contre la vérité. Alors on va faire une violente politique anticléricale, excellente en soi, mais de nouveau une politique alibi. Car pour M. Waldeck Rousseau, ce qui est très important, c'est de diriger l'effort ouvrier dans une direction qui ne soit pas dangereuse. On leur fait manger du curé plutôt que faire manger du banquier, parce que c'est beaucoup plus facile. Alors, de nouveau, vous avez l'alibi anticlérical. L'élection suivante, 1902, 1906, 1910, tout ça est parfait, ça marche très bien. On a constamment une majorité centre-gauche. 1914, ça va beaucoup moins bien. En mai 1914, pour la première fois, les socialistes sont 103 à la Chambre. Il n'avait pas cessé de croître, mais brusquement, entre 1910 et 1914, 103 députés socialistes, l'alliance socialiste et radicale donne une majorité de gauche, c'est une chambre ingouvernable, ça va être terrible ça. Surtout que socialistes et radicaux ont décidé qu'ils allaient voter l'impôt sur le revenu. Vous savez, aujourd'hui, on n'est pas très effrayé par l'impôt sur le revenu, du reste habituel, puis on sait même, je peux dire sans souriant, parce que c'est vrai que quand on a suffisamment d'argent, on peut s'arranger pour ne pas payer l'impôt sur le revenu. Mais vous n'imaginez pas en 1914, ce que c'était que l'impôt sur le revenu. Hein, c'était quelque chose de comme un épouvantail. Alors, pour empêcher de passer l'impôt sur le revenu, on fait appel à un nommé Poincaré. M. Poincaré est devenu très célèbre, président de la République, c'est le Lorrain, vous savez, c'est l'homme de la Lorraine. Mais il faut savoir qu'ils ont fait appel à lui en 1912, parce qu'on sentait que les élections allaient mal tourner. C'est parce que, en 1895, ce M. Poincaré s'était manifesté au premier rang de l'opposition quand un ministère qui s'appelait Léon Bourgeois, et qui était beaucoup plus bourgeois radical, suite à Léon Bourgeois, en 1995, avait osé pour la première fois mettre dans son programme l'impôt sur le revenu. Alors il a fait surgir cet inconnu, Poincaré, qui ne s'était pas contenté d'une ou deux manifestations, mais si je ne me trompe pas, 5 discours à la Chambre, avec un extrême emportement contre l'impôt sur le revenu, où il disait c'est l'Inquisition, c'est le viol du secret des fortunes, nous n'en voulons pas. Bon, alors 1914, hein, ça devient très dangereux, on fait appel à Poincaré, parce qu'à ce moment-là, la guerre menace, c'est parfaitement vrai. Je viens de vous le dire, Poincaré, il parle duc, c'est un Lorrain. Comme on pense à la revanche, comme on pense à la reconquête de la Lorraine, on va mettre en avant ce tricolore Poincaré. Alors qu'en réalité, s'il est là, c'est surtout pour empêcher de passer l'impôt sur le revenu. 7 juillet 1914, hein, vous savez que la guerre c'est en août. Hein. 7 juillet 1914, la Chambre vote l'impôt sur le revenu. Ça, c'est très dramatique. Mais heureusement, je dis heureusement avec cynisme, la guerre va éclater. Et si je dis heureusement, c'est que je m'appuie sur les paroles imprudentes d'un général trop bavard, il y en a comme ça. Un général Rebillot, qui était à la retraite, et qui, dans ce journal d'extrême droite, La Libre Parole, dirigé par l'antisémite Drumont, le 13 décembre 1914, va écrire ce qu'il n'aurait jamais dû écrire, parce qu'il était beaucoup trop nu, presque obscène. Il va dire, général Rebillot, au printemps, la situation était perdue. Ça veut dire pour les honnêtes gens, enfin pour les gens de bien. Et on n'est pas un genre de bien si on n'a pas du bien. Alors la situation était perdue au printemps 1914. Par bonheur, écrit-il, la Providence, qu'est-ce qu'elle vient faire là? La Providence va inspirer à Guillaume II l'idée de nous attaquer. Ça veut dire, c'est la guerre, et quand c'est la guerre, on ne parle plus de ces petits problèmes misérables de finances ou de politique, on parle de défense nationale, plus question de l'impôt sur le revenu, et effectivement, il avait bien été voté, mais il ne sera appliqué très faiblement qu'en 1916, et il y a même des gens qui ont l'intention de le détruire lorsque la guerre sera gagnée. Par conséquent, la guerre a sauvé la société bourgeoise, hein, la société des honnêtes gens, c'est comme ça qu'ils s'appliquent eux-mêmes, et on aura en 1919 une chambre admirable qui s'appellera la chambre du bloc national. Sur ce bloc national, j'ai quelque chose à vous apporter. Le mot national fait toujours très bon effet. Du reste, le maréchal Pétain le reprendra à son compte avec sa révolution nationale. Mais en fait, ce bloc national, son nom véritable, savez-vous ce que c'était? C'était Union des intérêts économiques. Alors là, c'est parfaitement clair. Hein. Seulement Union des intérêts économiques, ça n'est pas assez populaire, tandis que bloc national, ça fait un effet splendide. Alors on a une chambre magnifique, on a présenté surtout des anciens, des officiers, si possible, bien pensant naturellement. On l'appellera la chambre Bleu Horizon, puisque c'est le costume des militaires. Ce sont presque tous des médaillés, d'anciens combattants, des blessés qui sont à la chambre. Une chambre magnifique, formidable, la chambre de 19, elle est parfaite. Mais voilà qu'en 1924, les choses vont prendre un autre aspect. Il y avait un problème terrible, un problème financier pour mon pays, enfin pour la France, qui est le problème des dettes de guerre. Nous avions dépensé, quand je dis le coup d'État français, avait dépensé des sommes colossales pendant la guerre et il s'agissait de faire face à ces dettes. Alors la question était de savoir qui allait payer ces choses-là. Et Clémenceau, qui était vraiment le père de la victoire, vous savez, qui avait combattu énergiquement et qui avait apporté la victoire à la France, Clémenceau était persuadé qu'il allait obtenir très facilement sa nomination à la présidence de la République. Il se présente, il veut l'Élysée. Mais Clémenceau est en même temps un homme qui a conservé quelques idées libérales, quelques idées de gauche, et qui, dans un discours en novembre 1919, oui, à Strasbourg, dit il y a deux choses à faire. Il faut appliquer pour de bon l'impôt sur le revenu, il faut appliquer aussi une loi qui est du 1er juillet 1916 sur les bénéfices de guerre. Épouvantable. Quand un homme comme Clémenceau se met à dire impôt sur le revenu et bénéfices de guerre, ce n'est pas possible. Alors il sera battu, ce n'est pas lui qui va être président de la République, c'est un nommé de Chanel dont les enfants sont élevés dans l'école libre, donc c'est parfait. Clémenceau aura perdu l'Élysée parce qu'il a osé parler, osé dire, que les gens qui ont de l'argent, quoi, doivent faire face aux dettes de guerre. M. Poincaré, lui, a une toute autre idée. Pour les dettes de guerre, il faut s'arranger pour que tout le monde les paye, c'est-à-dire les pauvres gens, quoi. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, les impôts indirects. Il va inventer ce qu'il appelle, avec une formule charmante, le double des cimes, ce qui veut dire simplement augmentation de 20% des impôts indirects, si bien que c'est toute la population française qui sera appelée à payer davantage pour combler ces dettes de guerre, afin que les grands riches, les grands possédants, ne soient pas inquiétés. Et bien, c'est comme ça qu'il a réussi son opération, mais néanmoins, vous savez, il y a pas mal de gens qui ne sont pas contents, ben, naturellement, hein, les gens qui se disent, ben, tout le monde a gagné la guerre, et puis en plus, il faut encore que ce soit nous, les pauvres, qui payent les dettes de guerre, si bien que se constitue un cartel des gauches, c'est le mot, un cartel des gauches, une alliance socialiste et radicale. J'en parle d'autant plus qu'à ce moment-là, j'étais déjà étudiant, je votais, je participais véhémentement au cartel des gauches, avec en tête un nommé Édouard Herriot, maire de Lyon, et qui va effectivement prendre le pouvoir. Mai 1924, le cartel des gauches a gagné, c'est donc M. Édouard Herriot qui est président du Conseil. Je l'ai connu, vous savez, j'étais beaucoup lyonnais, j'ai fait mes études à Lyon, je l'ai entendu maintes fois et même j'étais allé le voir. Édouard Herriot est un honnête homme, je crois, vous n'êtes pas du tout un vendu, absolument pas, c'est pas un type corruptible. Moi, c'était un phraseur, vous comprenez, c'était un homme qui était d'autant plus sonore qu'il était plus creux. Alors quand il faisait semblant d'être un républicain intransigeant, il était républicain, mais touché aux structures sociales, ça pas question. Il y avait cependant son cabinet, puisque c'était un cabinet radical et socialiste, un nommé Renaudel, qui était socialiste, et qui avait prononcé une phrase impardonnable. Figurez-vous qu'il avait dit, il faut prendre l'argent où il est. Vous vous rendez compte, il a fait une incorrection incroyable. Alors il y avait la droite qui était épouvantée par l'idée de ce qu'allait pouvoir faire M. Herriot. Or, il ne voulait pas faire de choses très méchantes. Il voulait recommencer l'éternel coup, le coup de Jules Ferry, le coup de Vallée-Crosso, faire de la politique anticléricale, parce que c'est plus commode. Alors son grand cheval de bataille, c'est-à-dire il faut supprimer les relations officielles avec le Vatican. Je ne trouve pas ça déraisonnable du reste. Le Vatican n'a pas, à mon avis, à avoir des nonces. Bon, soit. Mais enfin, quand il lançait ses troupes contre les curés, de nouveau, c'était pour éviter qu'elles ne se précipitassent contre les structures économiques et sociales qui étaient intouchables. Figurez-vous que c'est un membre de l'Institut, un homme très convenable, qui s'appelle Chastenet ou Chatenet, je ne sais pas comment ils font prononcer, qui a fait une histoire de la Troisième République. Et je vous le répète, Institut, hein, monsieur, très bien. Et bien. C'est lui, dans son histoire, qui avoue avec une grande gentillesse, ce que j'appellerais cynisme, que c'est la Banque de France elle-même qui a provoqué la chute d'Herriot. Ce sont les régents de la Banque de France qui ont provoqué la chute du franc, l'évasion des capitaux, afin que le franc tombe et qu'on puisse dire, voyez, M. Herriot, quand il est au pouvoir, c'est épouvantable. Alors figurez-vous que cette chambre de 1924, étant la majorité de gauche, va voir reparaître qui, en 1926, Poincaré. Une chambre de gauche, 2 ans plus tard, à un ministère de droite. C'est un triomphe assez insupportable, et en 1932, pour la troisième fois, on va avoir une chambre de gauche. Alors ça ne va plus du tout. Vous vous rappelez ce que je vous avais expliqué de la politique de M. Thiers, qui disait la République sera forcément conservatrice, le suffrage universel est docile, les pauvres votent toujours pour les notables, c'est-à-dire pour les riches. Or, de plus en plus, les pauvres commençaient à se dire qu'ils pouvaient bien envoyer des représentants à eux. Alors ça ne va plus. Et autant on était parlementariste, si je puis dire, vers 1875, autant, autour des années 1930, on commence à faire de l'anti-parlementarisme, et je me rappelle parfaitement qu'il y avait des voitures en France qui portaient une inscription derrière « Je ne suis pas député », comme si le fait d'être député était déjà déshonorant. Alors, cet antiparlementarisme est appuyé par le fait qu'il y a à l'extérieur de la France des régimes qui viennent de surgir ou qui vont surgir très engageants. À partir d'octobre 1922, il y a en Italie le fascisme, marche sur Rome, octobre 1922, le fascisme a balayé la démocratie. Et voilà qu'en janvier 1933, quelque chose d'encore bien plus intéressant, cette fois pas de l'autre côté des Alpes mais de l'autre côté du Rhin, avec un homme Hitler qui lui aussi veut balayer la démocratie. Alors les anti-parlementaires français se disent, mais c'est très intéressant, on pourrait peut-être faire quelque chose de semblable. Il existait déjà des ligues en France. Il y avait une vieille ligue d'action française créée, je crois, en 1908, surtout avec des étudiants, c'était des chahuts, ça n'était pas très important. Mais dans les années où nous sommes, là, vers les années 30, hein, la Ligue d'Action Française réunit des adultes et des gens décidés à se battre et devient une ligue importante et dangereuse. À côté, vous avez les Croix de Feu, qui ont été, ligue a été inventée par le colonel Comte de Larocque. Au début, c'était vraiment Croix de Feu, des gens qui ont été décorés au feu. Puis peu à peu, pour grossir ses effectifs, il accepte les parents des Croix de Feu, les fils des Croix de Feu, enfin, grande organisation, qui ne se déclare pas fasciste, je ne dis pas qu'ils étaient fascistes, mais extrêmement anti-républicains. Vous avez à côté la Ligue de la Solidarité Française, qui elle avait été créée par un parfumeur, qui s'appelait M. Coty, qui avait mis la main sur le Figaro. Il arrive quelquefois, comme c'est des gens importants, mettent la main sur le Figaro. Alors, cette Ligue de la Solidarité Française a des militants très actifs. Et puis vous avez à côté la Ligue des Contribuables, ça c'est une pure merveille, créée par un monsieur, le maître Dubreuil, je crois. La Ligue des Contribuables, c'est-à-dire que ces malheureux contribuables que la gauche avait essayé de défendre, on va les précipiter contre la gauche, c'est-à-dire faire servir les victimes au triomphe de leurs exploiteurs. Toujours est-il que les ligues se font entendre et qu'elles ont à leur disposition trois hebdomadaires dont vous ne doutez, dont vous ne mesurez pas l'influence. Je me rappelle ça très bien, il y avait Candide, il y avait Gringoire, il y avait Je suis partout. À Candide, vous aviez un nommé Gaxot, qui est aujourd'hui très vieux, mais qui est toujours de l'Académie française. Et à Je suis partout, vous aviez un jeune homme, plein de talent, du reste, qui commençait à se faire connaître, et qui s'appelait Bradillac. Ben, ces trois hebdomadaires avaient environ, je n'y exagère pas, 2 millions de lecteurs par semaine. Ça compte, hein. Alors, vous avez les ligues, vous avez les hebdomadaires, vous avez un grand mouvement assez profond avec des tas de pauvres gens qui marchent. On appellerait ça aujourd'hui des poujazistes, si vous voulez, qui marchent contre la République. L'occasion à saisir, ça va être l'affaire Stavisky. Oui, c'est une affaire assez moche. Stavisky est un escroc qui avait bénéficié de beaucoup d'appui politique, et en particulier, dans l'affaire Stavisky, quatre députés, dont un ministre, le ministre des colonies, étaient compromis, tous les quatre radicaux. C'est vrai que c'est assez scandaleux, mais je dois vous dire, et il faut le savoir, qu'il y avait eu quelques années auparavant, c'était en 1931, l'affaire Oustric, où des parlementaires nombreux avaient été compromis, dans une histoire d'escroquerie également. Malheureusement, enfin, entre guillemets, c'était tous des parlementaires de droite, y compris M. Tardieu. Alors politiquement, on n'en avait pas tiré d'argument. Tandis que maintenant, hein, avec quatre radicaux qui sont compromis dans l'affaire d'escroquerie, c'est magnifique. Alors vous aviez, en janvier 1934, après le suicide ou l'assassinat de Stavisky, vous avez un mouvement très violent, très puissant, avec l'Action française d'une part, qui fait des séries d'articles appelant les gens à la lutte contre la République égale escroquerie, et vous avez un nouveau venu, qui s'appelle Philippe Henriot, député de Bordeaux, que j'ai personnellement connu, une grande gueule si je puis dire, mais un réel talent oratoire, et qui trois fois, en janvier 1934, à la tribune de la Chambre, annonce qu'il faut balayer la République. Et ça va aboutir à quoi? Bien, une chose assez dramatique qui s'appelle, vous le savez sans doute, le 6 février 1934. C'est une journée sinistre, une journée noire et sanglante. Ce jour-là, environ 40 000 personnes étaient place de la Concorde, surtout des gens d'Action française, et puis de l'autre côté, c'est-à-dire place de Bourgogne, de l'autre côté de la Chambre des députés, il y avait les Croix de Feu. Ces gens en voulaient, si je puis dire. Enfin, ils voulaient essayer d'entrer dans la chambre, balayer la chambre et de remplacer ça par je ne sais quel gouvernement plus ou moins fasciste. J'ai oublié de vous dire que Brasillac, lui, si Larocque n'acceptait pas le mot de fasciste, Brasillac s'annonçait publiquement et ouvertement comme fasciste. Il y avait aussi là un certain nombre d'anciens combattants qu'on avait surexcités parce qu'on avait diminué, le gouvernement avait diminué les pensions des anciens combattants. Et il y avait l'armée dans l'ensemble, n'a pas bougé, mais il y en avait un pourtant, un vieux maréchal, qui essayait de se mettre en avant, qui s'appelait le maréchal Lyautey, et qui, en 1924, avait déjà proposé un putsch militaire. Il avait eu l'adhésion de Foch, il avait eu l'adhésion de Franchet d'Espéré, puis il n'avait pas osé se lancer. Enfin, il faut savoir que le maréchal Lyautey était derrière, en se disant, si vous avez besoin de moi, j'emmène les anciens combattants. Toujours est-il que 6 février, hein, c'est sérieux, il y a des types d'Action française surtout qui ont mis au bout de leur canne des lames de rasoir, avec lesquelles ils coupent les jarrets des chevaux, les chevaux des gardes républicains qui sont là. Le pont de la Concorde est menacé, on a beau mettre des rangs de garde, les gens attaquent, envoient des pierres, les types reculent. Et puis derrière, il y a les Croix de Feu. Et derrière la chambre, il y avait, c'était une absurdité, il y avait qu'un rideau d'agents de police, un rideau. Un policier tous les mètres. Hein. Puis environ 3500, vous m'entendez, 3500 gars de Larocque, qui n'avaient qu'un pas à faire en avant, ça y est, ils entraient dans la chambre, et ils balayaient la République. Et bien la République a été sauvée par hasard à 18h30, figurez-vous. À 18h30, les types de Larocque étaient là, tout prêts à entrer, à avancer. Et stop, c'est Larocque qui leur dit, bougez plus, n'avancez pas. Pourquoi? Parce que Larocque ne s'était pas entendu préalablement avec Maurras sur la constitution d'un gouvernement provisoire, que Laroque ne voulait pas travailler au bénéfice de M. Maurras et que Maurras ne voulait pas travailler au bénéfice de M. Laroque. C'est comme ça que la République a mystérieusement été sauvée. Néanmoins, il y avait des tués, hein. Il y avait 16 tués, il y avait 600 blessés, enfin c'était une affaire extrêmement grave. Et le président du Conseil s'appelait M. Édouard Daladier. Il pouvait rester en place, hein. Il avait une majorité parlementaire considérable, il n'avait pas du tout besoin de démissionner. Il n'ose pas rester en disant, enfin on lui dit, vous avez les mains couvertes de sang, alors il faudrait mieux mettre quelqu'un d'autre à votre place, le voilà qui démissionne à la suite du 6 février, et ce qui va faire dire plus tard, en 41, à M. Brasillac, dont je vous ai déjà parlé, le 6 février fut l'aube du fascisme en France. C'est intéressant cette phrase. L'aube, ça veut dire le soleil n'est pas encore levé, mais il commence déjà à apporter sa clarté dans le ciel. L'aube du fascisme. Pourquoi? Mais parce que la droite va encore gagner. Qui est-ce qu'on va appeler au pouvoir? On va appeler au pouvoir un nommé Doumergue. Ça ne vous dit rien aujourd'hui. Mais il faut savoir que Doumergue était très classé. En 1924, lorsqu'il s'agissait de remplacer le président de la République, qui s'appelait Mitterrand, qui s'était compromis dans le bloc national, et à ce moment-là, un président de la République ne devait pas faire de politique, ça a changé depuis. Alors M. Mitterrand, ayant fait de la politique, on lui avait dit, il faut absolument que vous partiez. Il était parti. Il y avait deux candidats. Il y avait un candidat de gauche, qui s'appelait Painlevé, et un candidat de droite, qui s'appelait Doumergue, et c'est le candidat de droite qui avait été élu. Par conséquent, ce ministère, Doumergue, qui prend le pouvoir le 9 février 1934, un ministère en apparence d'Union nationale, et on sait très bien en France que l'Union nationale ne se fait jamais qu'autour de la droite. Là, vous aviez ce gentil M. Herriot qui avait accepté tout de suite. Vous aviez à l'extrême droite M. Tardieu. Vous aviez un gouvernement dit national, d'union nationale. En fait, un gouvernement de droite. Ainsi, pour la troisième fois, une chambre de gauche aboutissait à un gouvernement de droite. Et il faut savoir que dans ce fameux ministère de droite, 9 février 1934, apparaît pour la première fois dans la politique française quelqu'un dont nous aurons à nous occuper étroitement et qui s'appelait le maréchal Pétain.